France Musique. Musicopolis. Alceste, entre Vienne et Paris. Figurez-vous l'Europe musicale de 1760. Depuis environ 80 ans, dans les cours et les maisons d'opéra publics, l'opéra seria italien domine. Au fil des décennies, il s'est figé en une monstrueuse succession de récitatifs et d'arias. Et il s'est soumis au diktat des sopranos et des altos, féminins et masculins. Le cadre très strict des livrets, établi par Métastase, a rigidifié les intrigues. Et le public bourgeois qui émerge à cette époque commence à en avoir un peu assez. C'est alors qu'à Vienne apparaît un petit groupe d'artistes, compositeurs, chorégraphes et librettistes, sous l'égide de l'intendant général des théâtres impériaux. Un petit groupe qui fait figure d'avant-garde. Ce petit groupe d'avant-garde est composé du chevalier Gluck, le compositeur, de Gasparo Angiolini, le danseur et chorégraphe, et de Ranieri de Calzabigi, le librettiste. Gluck commence par composer quelques ballets en collaboration avec Angiolini, notamment Don Juan. Puis, avec Calzabigi, il écrit Orfeo et Eurydice, où les deux auteurs se dressent contre les conventions de l'opéra seria baroque tel qu'il se pratique alors. L'Orfeo de Calzabigi et Gluck, qui tranche par rapport à l'opéra seria ambiant, obtient un très grand succès à Vienne en 1762. 5 ans plus tard, le tandem collabore à nouveau sur un ouvrage intitulé cette fois-ci « Alceste ». Alceste a un peu plus de mal à trouver son public. On la trouve triste. On n'a pas envie d'entendre une messe d'enterrement. Malgré les critiques, on trouve à Vienne d'ardents défenseurs de l'Alceste de Calzabigi et Gluck. L'un d'eux se croit dans le pays des merveilles. Un singspiel sans castrat, écrit-il. Une musique sans vocalise, ou pour mieux dire, sans gargarisme. Un poème italien sans boursouflure ni pointe. C'est avec cette œuvre triplement merveilleuse que s'est ouvert le Burgtheater. Gluck, par la plume de Calzabigi sans doute, exprime dans la préface d'Alceste toutes ses idées concernant ce qu'on a appelé une réforme de l'opéra. Il a voulu bannir tous ces abus contre lesquels, depuis un long temps, protestent en vain le bon sens et la raison. Il a voulu que l'ouverture prépare les spectateurs à l'action à venir et il s'est efforcé de rechercher en tout une belle simplicité. je vous disais tout à l'heure dans mon introduction que l'Europe musicale des années 1760 était dominée par l'opéra italien. L'Europe entière ? Non. Un petit village gaulois résiste envers et contre tous. À l'opéra seria, il préfère encore la tragédie lyrique. En 1776, 9 ans après la première viennoise d'Alceste, Gluck donne son opéra à Paris. Non plus en italien, bien sûr, mais en français. Et dans une version totalement remaniée pour s'adapter au goût parisien.
L'impitoyable mort est prêt à le saisir et nul secours humain ne peut plus le ravir à sa meurtrière.
L'action est lancée en une courte strophe du héros d'armes. Le roi Admet va mourir, le peuple va pleurer. Gluck connaît bien la musique française. Revenons au début des années 1750. Dès cette époque, il adapte des opéras comiques pour les théâtres de Vienne. Il en a lui-même écrit pas moins de 8, en français. Il est très intéressé par la tragédie lyrique. Il étudie Lully et Rameau. Il incorpore même de nombreux éléments propres à l'opéra français dans ses opéras italiens écrits pour Vienne. Il est donc enchanté lorsqu'un certain Duroulet, attaché à l'ambassade de France et dramaturge à ses heures, lui propose de collaborer sur un Iphigénie en Aulide, d'après Racine. Voilà qui tombe à merveille pour Gluck, qui se met au travail avec enthousiasme et qui impose à son nouveau librettiste son autorité souriante et de bonne humeur. Ce sont les mots de son biographe. Une fois l'ouvrage terminé, on en fait la réclame à Paris. Le directeur de l'Académie royale de musique lui propose de monter Iphigénie et lui commande dans la foulée 6 autres opéras pour les années suivantes. Gluck fait le voyage, d'autant plus ravi qu'il a été le professeur de musique de la dauphine de France, Marie-Antoinette de Habsbourg.
Rien n'égale mon désespoir.
Après le succès de son Iphigénie en Aulide en 1774, Gluck n'en a pas fini avec Paris. Il donne la même année une version française de son Orphée et Eurydice, puis de deux opéras comiques. Enfin, il va travailler avec Duroulet, son librettiste, pour remanier totalement Alceste et donner une version française de l'ouvrage.
Et brille sur l'autel. Tout amour, ce Dieu, la présence suprême. Ce Dieu, ce mon destin, peut s'expliquer lui-même. L'honneur qui me sent épouvante se répand autour de moi. La terre est sous mes pas, puis elle se précipite. Le marbre est animé. Le sang des pieds s'arquite. La vie d'un juste effroi. Il va parler.
Gluck travaille sur la version française de son Alceste à Vienne, tandis que son librettiste Duroulet est à Paris. C'est l'occasion entre eux d'une longue correspondance dont il nous reste quelques traces. On y voit à quel point le compositeur est préoccupé d'assujettir sa musique au drame. Puisqu'en effet, si dans la préface de l'édition italienne, il dit qu'il veut réduire la musique à sa véritable fonction, celle de servir la poésie pour fortifier l'expression des sentiments et l'intérêt des situations, on voit que c'est plutôt l'ensemble de la trame dramatique qu'il sert avec ardeur.
Le roi doit mourir aujourd'hui. Si quelque autre trépas ne se livre pour lui. Votre roi va mourir.
Si on fait
J'ai imaginé, dit Gluck dans la préface d'Alceste, que les instruments ne devaient être mis en action qu'en proportion du degré d'intérêt et de passion. J'ai cru que la plus grande partie de mon travail devait se réduire à chercher une belle simplicité. Et j'ai évité de faire parade de difficultés aux dépens de la clarté. Je n'ai attaché aucun prix à la découverte d'une nouveauté, à moins qu'elle ne fût naturellement donnée par la situation et liée à l'expression. Enfin, il n'y a aucune règle de composition que je n'ai cru devoir sacrifier de bonne grâce en faveur de l'effet.
Je n'aime vos que...
Alceste, l'épouse d'Admet, s'est offerte aux dieux pour mourir à la place de son bien-aimé. Elle les a invoqués dans ce fameux air « Divinité du Styx », le plus connu de la partition. Un air dans lequel Gluck montre plusieurs facettes de sa personnalité. C'est d'ailleurs la grande qualité qui a été reconnue à son opéra. Si en effet le sujet est funèbre dès le début, de nombreux sentiments sont pourtant explorés. Héroïsme, désespoir, amour et amour maternel, découragement, etc. Voilà qui donne à l'ouvrage une variété qui ne coule pas de source au vu du sujet. Voici par exemple un peu d'animation psychologique dans la scène 3 du deuxième acte. Admet a recouvré la santé, très heureux, mais il ne sait pas encore à qui il doit la vie. Il s'interroge et il commence à s'angoisser un peu.
Réponds-moi,
je ne puis,
tu ne peux,
quel martyre,
explique-toi,
tout mon cœur se déchire,
Alceste, Alceste, au nom de Dieu, au nom de cet amour, si tendre, si fidèle, qui fait tout mon bonheur, qui comble tous mes voeux, prends ce silence mieux, ici pour ma frayeur mortelle. Glace d'effroi, parle et laisse-lui, dont la pitié cruelle offre la symbole pour moi.
Peux-tu me demander?
Au silence funeste, parle enfin, je l'exige.
Partie non négligeable de la suite de cette scène va être la dispute entre les deux époux pour savoir lequel doit mourir. « C'est moi !» dit Alceste. « C'est moi !» dit Admet. Alors qu'elle est emmenée par les forces infernales, il faudra l'intervention du héros Hercule, un ami d'Admet qui passait là par hasard et s'offre à sauver Alceste, pour que l'opéra puisse finir par une happy end, avec le soutien d'Apollon, bien sûr.
Reçois, mon cher Admet, le digne objet de ton ardeur.
Ah, ma félicité est d'autant plus parfaite que c'est de mon ami que je tiens mon bonheur.
Déjà, Gluck n'avait pas été satisfait du troisième acte de son Alceste italienne. Il ne l'est pas davantage de son Alceste française.
Je suis, ô digne fils,
Il écrit à son librettiste Duroulet : Je ne trouve pas votre dénouement à la fin du troisième acte bien heureux. Cela serait bon pour un opéra de Chabanon, de Marmontel ou du Chevalier Saint-Marc. Mais pour un chef-d'œuvre comme Alceste, il ne vaut rien. Que diable voulez-vous qu'Apollon vienne faire ici avec les arts ? Ils sont bons seulement en sa compagnie au Montparnasse. Gluck n'obtiendra pas de son librettiste le dénouement de ses rêves, et certains critiques se sont moqués, disant « Le poète se conduit avec tant d'adresse que l'intérêt diminue dans la progression la plus admirable depuis la première scène jusqu'à la dernière. » D'autres ont affirmé que tout était triste d'un bout à l'autre. Gluck, lui, déclara à un ami « Alceste ne doit pas plaire seulement à présent et dans sa nouveauté. Il n'y a point de temps pour elle. J'affirme qu'elle plaira également dans 200 ans, si la langue française ne change point. Et ma raison est que j'en ai posé tous les fondements dans la nature, qui n'est jamais soumise à la mode. » Laissons le mot de la fin à Sophie Arnoux, qui avait créé le rôle d'Iphigénie 2 ans plus tôt. Je le dis hautement, Gluck est le musicien de l'âme. Il saisit toutes les modulations propres à former l'expression des sentiments et des passions. Le final d'Alceste de Gluck dans la version française, avec Paul Groves en Admet, Anne-Sophie Fonotor en Alceste, Monteverdi Choir, les English Baroque Soloists sous la direction de John Eliot Gardiner. Programme, la réécouter, le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Antoine Viossa pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation. À réécouter sur francemusique.fr.